l'hiver avec nos thermopompes. Soumission gratuite. Multiconfort FP en face de l'aéroport. Multiconfort FP en face de l'aéroport.
Le Pit Stop avec Denis Gravel, présenté par Identité Québec. Faites votre demande de pardon et soyez financé sans intérêt en une seule étape. Identité Québec, à un clic de votre liberté.
Boulevard, le Pit Stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Annick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
3, 2, 1.
Et à nous, ben, j'ajouterais Jeff Fortin, j'ajouterais Max Larouche, parce que là, on parle de la souveraineté de plus en plus au Québec. On se souvient de référendum qui a eu lieu en 1995. Et la question référendaire, Denis Gravel, que je salue, était la suivante. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995. Salut!
Salut!
Ça va, le disciple de Jean Chrétien?
Attends peu! Jean Chrétien avait dit « C'est pas seulement l'avenir du Québec qui se décidera lundi, c'est également celui de tout le Canada. C'est une décision sérieuse et irréversible aux conséquences imprévisibles et incalculables. Et oui, mène à la destruction irréversible de l'union économique et politique que nous avons actuellement. Rien de plus. »
C'était un an avant que je puisse voter légalement. Puis si j'avais eu 18, j'aurais voté oui.
Ben nous autres, on n'avait pas.
T'avais compris la question, toi, parce que ça a l'air que la question, là, était pas claire. Ben, le monde comprenait pas que ça allait faire un pays.
J'avais
là.
Compris que si tu votais oui, c'était pour le pays, puis si tu votais non, c'était pour le pays du Canada. Ça j'avais compris.
Au moins, toi, tu l'avais compris, parce que ça a l'air que c'était pas clair, là.
Ben, c'est pas le manque de clarté comme le ridicule en soi de la question, puis c'est tellement nous autres de pas être game, de juste dire voulez-vous que le Québec devienne un pays, oui ou non? T'sais, mais c'est nous autres. La question nous représente tellement dans nos ambiguïtés, dans nos ambivalences, dans nos façons de contourner les obstacles sans vraiment les adresser. C'est nous autres, cette question-là.
Notre peur de nommer les choses.
Ben oui, exactement. Exactement.
T'sais, on devient souverain, ça veut dire qu'on va chicaner encore plus avec le Canada, qu'il va avoir une coupe d'années où ça va être tough, mais on va avoir pris la décision collective d'avoir notre propre pays.
Aimerais-tu ça qu'on regarde ensemble la possibilité d'un concubinage amenant parfois des séquences sexuelles nocturnes? Chris, veux-tu sortir avec moi? Veux-tu être ma blonde? Veux-tu être mon chum? J'ai jamais compris cette volonté-là de dire « Hey, là, faut tout pader d'une question. Ouais. » Non! Veux-tu que le Québec devienne un pays? Oui ou non? Et drôle comme nous sommes, la question aurait été raide de même, là. C'est pas 50-50, le lendemain, c'est 70-30 pour le Canada. Parce que c'est nous autres, ça!
Et ce que je savais pas, Denis, puis ce qu'on apprend par l'entremise de la presse de ce matin, c'est quelques jours après la courte victoire du non en 1995, Jean Chrétien avait fait savoir que si le camp souverainiste l'avait emporté, donc dit oui, avec une mince majorité, ben lui, Jean Chrétien, qui était alors premier ministre du Canada, aurait bloqué toute démarche sécessionniste du Québec, mais il n'avait jamais rien dit, du moins publiquement, sur la possibilité d'organiser un référendum fédéral, un référendum fédéral dans la province pour faire échec au mouvement souverainiste.
C'est antidémocratique, là!
Il partait en guerre, mais antidémocratique. Le point de Jean Chrétien à l'époque, c'était de dire les votes pour un camp de chasse, ça prend 60% des voix. Fait que c'est pas vrai qu'on va séparer le Canada à 50-50, puis c'est un argument qui rejoignait beaucoup de monde à l'époque.
La loi sur la clarté référendaire. Ouais.
Voilà. Max, comment tu l'as vécu, ton référendum?
Ben, j'ai encore mal.
Il était pas né!
Non, il était pas né.
Mais je peux-tu avoir des blessures pareilles?
Normalement, pour avoir un traumatisme, faut que tu l'aies vécu.
Il est né blessé.
J'ai vu les vidéos.
Ouais.
Les vidéos de quoi?
De mon pays mourir.
Voyons, t'as vu la plus grande démonstration d'amour de l'histoire du Canada. Plein de monde qui se sont fait payer le train gratis pour venir prendre une brosse
des
à Montréal.
Des hypocrites
pour nous dire qu'ils nous aimaient.
Ben oui, des dépenses illégales.
Max, avec politesse, ta gueule pis écoute les Blue Jays.
Hey, mais sais-tu que j'ai pas mis mon chandail des Blue Jays aujourd'hui parce que j'en reviendrai hypocrite demain, là.
Mais okay, 24 heures de souveraineté.
Un bon Québécois.
Aujourd'hui, ouais. J'aurais trouvé ça terrible d'avoir une feuille d'érable sous moi.
Hey, imagine que le troisième référendum serait aujourd'hui. en plein patriotisme canadien pour les Blue Jays, c'est 80 % non.
Mais ne sous-estimons pas le sport, parce que le départ des Nordiques, il y a quelqu'un qui pose la question ce matin, oui. Est-ce que le départ des Nordiques a coulé le deuxième référendum? Puis la réponse, traitez-moi d'épais, la réponse c'est oui. La réponse, c'est oui. On était dans un élan de défaitisme. On était dans un élan de déprime. Puis oubliez pas ce qui s'est passé. La campagne du oui s'en allait nulle part avant qu'on ramène Lucien Bouchard en catastrophe.
Ah, clairement.
Qui est arrivé avec la subtilité d'un éléphant d'une salle de bain. Puis lui, je veux dire, il a torsé tout le monde. Ça a bardassé Parizeau. Puis ça nous a montré encore une fois que les gens qui nous appelaient à la solidarité pour devenir un pays... ben, était pas capable de s'entendre ensemble pour des questions d'ego. Il y a plein de choses, on dirait qu'on oublie dans les petits détails, mais qui ont fait toute la différence. Puis de perdre ce qui nous fait vivre, le sport fait vivre, fait passer à travers les journées difficiles, le fait de perdre notre rivalité canadien-nordique, c'est sûr que ça a fait mal d'un flanc juste avant un deuxième référendum.
Juste revenir sur les traumatismes du passé, Max, que tu as vécu par procuration avec des documentaires et tout ça. T'es né en quelle année?
2001.
Tes parents se sont rencontrés en quelle année?
99. Le 24 juin.
Donc, pas de traumatisme intra-utérin.
Non. Il était même pas là encore.
Non.
C'était même pas un projet.
Mais moi, j'ai tout regardé le discours de René Lévesque en pleurant. Là.
René Lévesque.
Ben oui, mais là, je reviens encore plus loin.
Ouais,
dans
là, t'es au premier référendum. Tes parents étaient-tu nés au premier référendum?
Mon père est né en 76, puis c'est le plus jeune, fait que oui.
Ton père
jeune.
Est né en 76. Ouais, je suis né en 78. Calvaire. Les images les plus tristes du deuxième référendum, c'est le show des colocs. C'est triste à en être drôle, parce que c'était le lancement du deuxième album des colocs, Atrostomique. Puis l'idée, c'était, ben oui, on se donne un pays à soir, puis c'était le show, puis c'était au Spectrum, puis Musique Plus faisait de la couverture live. Puis à un moment donné, ben, les résultats sont rentrés, puis le show n'était pas fini. Oh, man!
C'est une catastrophe.
Les colocs auraient pu jouer Passe-moi à Poc 8 fois en ligne, là, puis
je pas dis, eu de fun.
Le party était mort. Puis Dédé Fortin, dans son entrevue catastrophe, si vous avez jamais vu ça, c'est sur YouTube encore, je veux dire. Tu sais, des vraies émotions comme on n'en vit pas souvent, ce gars-là est brisé, mais complètement. C'est pissé sur le gâteau d'anniversaire. C'est des images vraiment tristes.
Mais Max, si ça peut te rassurer, là.
Oui.
J'avais 16 ans. Puis, j'avais à peu près 16 ans, ouais. Puis, j'aurais voté oui.
C'est vrai?
Ouais.
Même toi?
Ouais. J'avais volé des pancartes du oui dans ma chambre, pour mettre dans ma chambre. Ouais.
Mais c'est peut-être toi qui as coûté la victoire au oui avec ces pancartes
c'était
volées.
C'était normal de voter oui. Je payais pas encore d'impôts à l'époque.
Hey, on avait les résidences au cégep de Jonquière. Là, toutes les fenêtres, c'était des pancartes du oui qui avaient été volées à grandeur de la ville.
On parlait du départ des Nordiques. Là, je suis en train de regarder parce que j'ai les résultats, mais par circonscription. Et vraiment, à Québec, le camp du non était beaucoup plus fort. Juste prendre Taschereau, qui a été une circonscription qui a appartenu à Agnès Maltais pendant quoi, 16 ans?
Ben oui.
59 % des gens ont voté non.
Regarde, c'est Québec, probablement, qui a fait la différence.
53 % ont voté non dans Charlebourg, dans Limoilou. 52 % ont voté non.
C'est quoi le chiffre? C'est 60 %? C'est 75?
C'est 50.
Parce que d'autres, c'est 50 % plus 1.
Oh, ouais, ben c'est ça, une majorité.
Moi, je suis partisan du 50 % plus 1 après recomptage. À partir du moment où tu as une majorité, moi, une majorité, c'est une majorité. Là. Il y a des gens qui sont maires avec 25 % des votes. Tu sais, je veux dire, la majorité vote pour un pays, tu pars la manivelle, puis tu payes sur on, puis c'est parti, là. Et moi, j'ai fait un statement hier, puis je le rappelle, parce que ça a l'air que le prochain gouvernement, c'est un gouvernement péquiste. Faites le ménage en santé, faites le ménage en éducation, faites le ménage dans les transports, adressez les syndicats, arrêtez de contourner, faites pas comme une question référendaire. On doit casser les syndicats dans les ministères, sans ça, on n'arrivera à rien. Combien de médecins se sont succédés à la tête du ministère de la Santé? On a eu toutes les couleurs. On a eu du libéral, on a eu du péquiste, on a eu du caquiste. Il n'y a rien qui marche. Pourquoi? Plein de monde ont des bonnes idées. Les idées se rendent jamais à exécution. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui doit adresser ça. Moi, le gouvernement de Paul Saint-Pierre Plamondon réussit à me montrer qu'ils sont capables de faire du ménage d'un ministère du Québec avec les leviers et les pouvoirs qu'ils vont avoir, vous faites de moi instantanément un souverainiste.
Avec l'argent, tu vas aller chercher les gens, Denis. Moins que tu vas leur demander d'argent, plus tu vas leur laisser de l'argent dans les poches, plus tu vas exploiter les richesses qu'on peut avoir au
Surtout
Québec.
Là.
On dort sur des milliards en gaz dans nos sols, puis on se dit, ah non, on va prendre le pétrole du Canada,
on va être mieux que les autres.
Le pétrole des États-Unis, mais nous, on n'exploitera pas nos affaires. On est dans la misère, on exploite les gens, on les presse comme des citrons, puis on dit qu'on peut faire un pays avec ça. Tant aussi longtemps qu'ils ouvriront pas le sol, puis qu'ils exploiteront pas avec les barils, qu'ils vont sortir de là, puis qu'ils exporteront pas ça, puis qu'on l'utilisera pas selon nos propres besoins, on n'ira jamais nulle part. Si tu m'as pas avec mon argent, tu m'auras jamais.
Il y a plusieurs souverainetés, mais il y a une souveraineté qui fait en sorte que les autres souverainetés peuvent exister, puis c'est la souveraineté économique. Si t'as pas la souveraineté économique, t'as pas la souveraineté culturelle. Si t'as pas la souveraineté économique, t'as pas la souveraineté linguistique. La souveraineté économique, c'est la vraie souveraineté. Il est où le plan économique qui fait en sorte qu'on va porter le reste du Canada dans une brouette comme du bois mort ou des roches comme Rocky traîne dans Rocky IV pour aller se battre contre Ivan Drago? Quand les provinces du Canada vont être les roches dans brouette, faites-vous-en pas, tout le monde va être souverainiste. Pas de stress avec ça. Là.
Amène-moi le chèque, Max. Ben, dis-moi comment je vais faire si un jour on se sépare du Canada. Dites-moi comment je vais faire pour prendre une partie de la dette canadienne qui nous appartient.
Mais j'ai hâte de voir le fameux livre bleu, puis je le dis souvent, là, puis il y a intérêt à être solide en Simonac, ce livre bleu-là.
Juste le nom part mal, là. Bon. Le panier bleu est pas loin en arrière. Ouais. Là, le livre bleu, c'est...
Peut-être
que
des...
les jokes s'écrivent tout seuls.
Mais les libéraux, puis en fait, tous ceux dans le camp du Nord vont attendre ce livre-là, puis vont te ramasser chaque petite erreur qu'il pourrait y avoir. Fait qu'il y a intérêt à être solide, puis j'ai l'impression qu'il va l'être, parce que j'imagine que le PQ voudra pas se planter.
Hey, Jeff, breaking news, Jeff.
Quoi?
Il va y avoir dépassement des coûts dans la conception du livre bleu du Parti québécois.
Finalement, c'était un livre de 500 pages qui a juste 30 pages, puis il a coûté le triple.
Moi, mon point majeur au niveau de la souveraineté, c'est un auditeur qui l'écrit. Est-ce que le Canada a une souveraineté, économique? En ce moment, on le voit bien avec les États-Unis, puis c'est « je le ramène au Québec ».
Très bon point.
Va falloir qu'on me prouve que le Québec, on va être meilleur que le Canada pour développer notre économie.
Puis même si c'est juste une question d'attitude, Doug Ford ferait de moi un souverainiste ontarien.
Moi, là, sérieusement, avec ce qu'il a fait hier, j'ai bien de la misère. J'aime le clown Doug Ford, le gars qui donne un spectacle, le gars qui a des convictions, le gars qui veut jamais se laisser abattre, même si l'autre bord, c'est un géant. Mais là, le fait qu'il veut nous voler nos médecins, là...
Ben là, les médecins veulent s'en aller.
Je comprends, mais c'est comme s'il y a une machine qui peut sauver des vies à Lévis.
Tu peux pas en vouloir,
moi et toi, on milite pour qu'on prenne la machine à Lévis pour sauver les gens de Québec. Éthiquement puis moralement, tu peux pas faire ça.
Tu peux pas en vouloir aux Yankees de New York d'avoir le goût de signer meilleur joueur de baseball puis de dire qu'ils sont ouverts aux négociations.
Oui, mais tu tues personne, là. Tu comprends? Tu tues personne quand tu veux...
Mais c'est pas de la faute à Doug Ford, ça! C'est de la faute à François!
Mais t'aurais fait un affaire de même, toi?
Oui!
Ah, pas moi.
Ben, venez-vous-en!
Moi, éthiquement, moralement...
J'aurais jamais trop de médecins en Ontario!
J'enlèverais pas, parce que je suis persuadé que les Ontariens sont très heureux de ça. Doug Ford qui dit aux médecins aux Québécois, venez chez nous, on a des communautés francophones, vous allez avoir des bonnes conditions. Mais... éthiquement, là, voler des médecins dans une région pour les amener chez toi...
T'es vole pas!
Je serais pas capable de dormir.
Doug Ford n'est pas débarqué pendant la nuit avec un sac pour rentrer des médecins dedans, faire le nœud puis ramener ça en Ontario.
Moi, je dormirais mal.
Mais je rejoins un point de Denis qui est... le gouvernement gère tellement mal ses médecins que Ford, il fait juste les avoir dans les mains.
Si vous êtes pas bien, venez-vous-en. C'est pas lui qui va tuer personne.
Mais c'est la façon de le faire. Il a été arrogant. Il a été Doug Ford. Là.
Ouais.
Mais alors que présentement, l'unité canadienne est fragile, en partie à cause de toi et à la base aussi. Puis là, t'en rajoutes en plantant un couteau dans le dos à ton voisin.
Prendre des médecins. Ça va loin, là.
Je vous reconnais pas à matin, les gars.
Non, moi, je l'ai
marre.
C'est un émotif.
Ben oui, mais c'est parfait, ça. J'ai pas de problème avec ça, mais on voit comme... vraiment pas l'affaire de la même façon, puis je trouve ça fascinant.
Je veux pas trop rendre ça émotif, mais tu sais, je pense à Olivier Teasdale, là, qui se bat pour faire reconnaître les erreurs qu'on a commises sur son père. Puis là, je pense que tous les médecins qui vont quitter, tous les dossiers qui vont être laissés sur la table, tous les patients qui n'auront pas accès à des médecins, parce qu'ils vont s'être fait faire la belle par Doug Ford, l'autre bord. Je comprends que les médecins peuvent quitter, là, mais j'ai de la misère avec ça.
Mais un des problèmes, c'est que la décision de la CAQ de sortir la loi Matraque et même pas pour sauver le système de santé et pour essayer d'avoir des résultats avant la prochaine élection parce que l'élection est dans un an.
Exact. Puis on a travaillé tellement fort à faire passer les médecins pour des méchants avec une certaine partie des Québécois, ça marche. Rendu là, le fait que toi, à côté, t'ouvres la porte puis que tu vois pas ça de la même façon. Puis même nous autres, à un moment donné, en tant que citoyens, c'est toutes des décisions qu'on a à prendre par rapport à ce qui se passe autour de nous autres. Tu sais, hier, j'ai reçu PY. C'était la première fois que je parlais à PY en onde.
Pierre-Yves-Laure,
exact. Puis c'est un gars de Québec. C'est un gars qui vit encore à Québec, dans la maison de sa famille. Il vit là avec ses enfants. Il y a une grande partie de sa job qui est à Montréal, mais il fait le choix de rester à Québec. Pourquoi? Parce qu'il est allé vivre à Montréal un peu, puis il n'a pas aimé ça. Il a fait le choix personnel de dire « c'est à Québec que j'élève mes enfants ». C'est un choix personnel qu'on fait tous dans une certaine mesure.
Oui.
Moi, je souhaite mourir à Québec. J'aimerais ça que mes enfants s'installent avec leur famille à Québec. Mais si Québec change dans une direction que moi, j'aime pas, puis que je peux rien faire pour changer ça, moi, je vais prendre des décisions en conséquence, au-delà de mon amour pour Québec. Puis non, Marceau, je ne sauverai jamais de vie. Je fais juste de la fucking radio, tu sais. Mais être médecin, c'est légitime pour moi de me poser cette question-là. Au-delà de ma job, on a toute cette décision-là à prendre par rapport à ce qui se passe autour de nous. Puis le gâchis actuel, c'est 8 ans de CAQ, puis c'est ces gens-là qui doivent le porter.
C'est juste que c'est la santé des gens.
Je comprends. Denis, qui m'inquiète. Je comprends très bien ton point.
Le système là, tient avec de la broche.
Tu me fais réfléchir, Marceau.
Pardon.
Te le dis. Non, ton point est bon. Le point éthique, moi, j'avais pas vu ça.
Les propres femmes de ma vie ne m'ont jamais dit ça.
On a tous des matins de faiblesse. Là. Tu me fais réfléchir.
Hey, j'essaie de retrouver l'article.
Denis, qu'est-ce qui arrive avec toi ce matin?
J'essaie de retrouver l'article. Peut-être, Max, tu pourrais me le renvoyer sur Messenger, cet article-là. Mais il y a un politologue qui a rencontré des dizaines de personnes à Québec, des personnes racisées, des personnes noires,
oui.
qui mentionne que le service de police de la ville de Québec fait encore énormément de profilage racial.
J'espère que non.
Puis ça m'agace. Puis tu sais, on parlait avec, j'allais dire Roger Drolet, c'est pas la même personne.
Roger Ferland,
l'ex-enquêteur au service de police de la ville de Québec, puis il était un peu de notre avis ce matin, c'est-à-dire qu'on est passé à d'autres choses. Y a-tu eu par le passé des gens qui... Tu sais, exemple, Opération Scorpion. Ben les gens qui étaient les pimes dans Opération Scorpion, ils étaient un peu plus foncés pour la plupart. Mm. Fait que ça a-tu donné un biais dans la tête des policiers du service de police de la ville de Québec, comme quoi, quand il y en avait qui étaient habillés de cette façon-là, ça se pouvait qu'ils fassent partie de l'autre gang, fait que c'était intéressant. Mais aujourd'hui, en 2025, on est-tu encore là? J'étais curieux que notre service de police se fasse traiter de raciste.
Écoute, moi, je suis blanc. Je suis né blanc. J'ai l'impression que j'ai même pas droit à mon opinion sur le sujet.
T'es-tu déjà fait écœurer parce que t'étais gros?
Ben... Oui, mais c'est pas pareil.
Mais t'as-tu déjà pensé que les gens t'écœuraient parce que t'étais gros sans te le dire?
Sûrement.
T'as-tu déjà pensé que, mettons, les roux avaient l'impression qu'ils se faisaient écœurer par les autres parce qu'ils étaient roux?
Ouais, c'est pas la même chose.
Mais c'est des biais, Denis.
Ouais, c'est des biais cognitifs, je suis d'accord. Mais, tu sais, le passé de l'esclavage, de la ségrégation, du vrai racisme, moi, je viens pas de là.
T'as raison.
Tu sais, fait que c'est dur pour moi de... Tu sais, je veux pas... Je veux pas black-splainer le racisme à des gens qui le vivent pour vrai ou qui le sentent pour vrai. Avant, j'en faisais de l'opinion là-dessus, là, parce que moi, ça me choquait en tant que Québécois blanc de me faire dire qu'on était raciste. On l'est peut-être sans s'en rendre compte. On l'est peut-être par ignorance. Peut-être que nos policiers ont un biais cognitif. C'est pas à moi de le dire. C'est à eux autres de le dire. C'est à eux autres de nous expliquer comment ils se sentent puis pourquoi. J'ai bien de la misère à m'impliquer là-dedans. Okay. Je trouve que j'ai pas le bagage nécessaire pour expliquer à quelqu'un de couleur c'est quoi le racisme et c'est quoi qu'il n'y en est pas. C'est pas ma place.
Quand j'entends des flics à Montréal ou quand j'entends des flics à Québec dire des fois, là, ça nous tente même pas d'intercepter un individu parce qu'on sait clairement que ce qu'on va se faire dire quand la fenêtre va être baissée, c'est quoi, tu m'arrêtes parce que je suis noir. Ouais.
Mais en même temps, la police de Montréal... qui court après quelqu'un puis qui se trompe de noir, ça fait ticaille en tabarnouche. Vous vous souvenez de cette histoire-là?
Quand le policier avait reçu un coup en arrière de la tête.
Ouais. Ouais, on t'arrête. Ouais, mais c'est pas moi. Ouais, oui, c'est toi et t'es noir.
C'est
correspondait à la description.
Ben oui, un homme de race noire. C'est parce qu'on se trompe pas de blanc. Les policiers se sont trompés de noir.
Mais quand les interventions sont filmées, Denis, puis on voit clairement que l'individu qui est dans sa belle grosse Mercedes luxueuse n'a pas mis son flash à droite où il est passé sa rouge alors qu'il avait pas, tu sais, il avait pas le droit de faire son virage à droite à rouge. Puis que la première chose que le gars te dit, c'est quoi, tu m'arrêtes parce que je suis noir? Ça doit être blasant pour les policiers de se le faire dire à chaque fois. Non, je t'arrête pas parce que t'es noir. Je t'arrête parce que t'as pas mis ton flasheur. Je t'arrête parce que t'es passé sa route. C'est-tu clair?
Je pense qu'à cette heure, au-delà de la couleur, c'est peut-être plus l'effet de gang qui doit être dur à gérer pour les policiers. Tu sais, t'essaies de procéder à une arrestation, puis il y a 9 personnes qui ont le cellulaire dans ta face pendant que t'es en train d'essayer de faire ta job, puis de faire en sorte de contrôler ce qui se passe. Tu sais, le ticoun là, de Charlebourg là, qui faisait des wellés avec son scooter en avant du char de police, il était blanc, si je me souviens bien. Oui. Sa mère, qui est allée broyer à LCN le lendemain, « Mon beau petit poupon! » était blanche aussi, elle. Fait qu'on est capable là, de jouer cette carte-là, nous autres aussi. Là, j'espère, pour vrai, j'espère sincèrement qu'on est rendu ailleurs. T'sais. Je vois un gars comme PY qui fait ses choix puis qui vit librement de défi en défi puis qui va de trip en trip. Il n'y a pas de l'air d'un gars qui est victime de racisme. Puis en même temps, ça, c'est un autre argument. T'sais, c'est pas parce que Normand Brathwaite dit qu'il est pas victime de racisme ou que PY dit qu'il est pas victime de racisme que ça veut pas dire que tous les Noirs sont pas victimes de racisme non plus. T'sais. Faut tout nuancer, pis, ces affaires-là.
Je pose la question là, parce que je suis à la recherche de réponses. Pourquoi la communauté juive se plaigne jamais des policiers? Pourquoi la communauté asiatique se plaigne jamais des policiers alors que tu as de la mafia asiatique à Montréal? Il y en a du crime organisé asiatique. Pourquoi ces gens-là se plaignent jamais des policiers?
Ben à partir du moment où tu as un biais cognitif d'un bord, ça se peut que tu aies un biais cognitif de l'autre bord aussi. Puis quand c'est générationnel puis que ça s'étend sur plusieurs décennies, ben peut-être que tu pars avec une animosité de bord, de base de chaque côté.
Alors, l'avantage à Québec à avoir plus de policiers noirs. Plus de
oui,
policiers asiatiques.
Absolument.
Je pense qu'il y en
absolument.
A deux, un ou deux au service de police de la Ville de Québec, de mémoire. Il n'y en a pas assez. Mm-hmm. Mais je pense que plus il y aura des policiers, comme plus il y aura d'Éric Martel-Bawali qui s'implique avec les jeunes, plus on va se dire, OK, ben on a des super de beaux modèles là, pour ces jeunes-là.
Puis en même temps, ça règle pas tout. À Chicago, la police était corrompue, puis le chef, il était blanc avant, il était noir après, mais c'est resté une police qui a été accusée de corruption au-delà de la couleur de son chef, puis de la façon qu'il représentait la communauté. Mm-hmm. Tu sais, t'as des bons et des mauvais exemples de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là,
ouais, puis je pense que la vérité se retrouve certainement entre les deux. T'sais, dans le sens que oui, il y a peut-être des interventions qui ont été faites et qui ont été étirées en raison de la couleur de la peau, parce qu'on parle justement dans l'article du fait qu'on a été marqué ici à Québec par le Wolfpack et avec raison, parce que la prostitution juvénile, ça a été un dossier marquant pour les gens à Québec.
De voir que ça existait, ça fait mal à beaucoup, beaucoup de fierté à Québec.
Exactement. D'un autre côté, il y a certainement aussi... des gens qui proviennent d'autres nationalités qui étirent l'élastique un petit peu lorsque, justement, sont interceptés. Fait que, tu sais, je pense que ça se retrouve juste entre les deux, la réalité, mais malheureusement, t'sais, comme on voit souvent en politique, ben c'est un petit peu plus les extrêmes qui font du bruit et qu'on entend.
Mais c'est là qu'on voit à quel point c'est important d'avoir des policiers qui sont bien formés puis qui sont capables de faire preuve de jugement, même quand ça commence à chauffer, tu sais. Moi, quand ça chauffe, faut que je m'en aille parce que j'ai peur de devenir agressif. T'sais. Mm-hmm. T'es un policier, tu te fais écœurer, il y a 8 cellulaires autour de toi, tu te fais traiter de nom, puis là, faut que tu fasses attention. Puis non, bravo à ceux qui font cette job-là avec, avec jugement, puis qui sont capables de faire la part des choses. Puis je pense que la formation... Tu sais, hier, on se disait, c'est quoi la différence entre un agent de sécurité puis une police? Ben j'espère que c'est ça, tu sais. La formation, le jugement dans la façon, justement, d'aborder les arrestations.
Clairement, parce que quand Roger Ferland nous parle de ses cours, là, on développe beaucoup l'esprit critique, justement, puis la façon d'intervenir, d'autant plus avec toutes les problématiques de santé mentale qu'il y a à l'heure
actuelle. Parce qu'on a un service de police à Québec qui est très ouvert sur les communautés.
Ah, vraiment?
Justement.
Qui est très bon.
C'est dans les années de l'enquête Scorpion, on s'était aperçu qu'il y avait des communautés qui arrivaient ici, les nouveaux arrivants qui arrivaient ici, qui faisaient partie d'une communauté, avaient une façon différente de traiter avec les policiers parce que dans certains pays, ben, la police est un peu corrompue. Fait qu'ils pouvaient avoir un schéma de méfiance envers les autres ou encore pire, tenter de vouloir toucher aux policiers quand ils parlent. Ouais. Fait que c'est des gens qui parlent vite, c'est des gens qui parlent fort, puis ils touchent aux policiers. Tandis que les policiers québécois ou canadiens ou même américains, encore pire les Américains, si tu t'approches d'eux, si tu t'approches de leur ceinture, si tu touches à la hauteur de leur ceinture, ils vont avoir un certain malaise. Donc, on a donné des cours aux policiers de la ville de Québec pour leur dire, ben voici, les gens de cette communauté-là, quand ils s'adressent à vous, quand ils élèvent le ton, c'est pas une agression verbale qu'ils émettent à votre égard, c'est leur façon de s'exprimer. Ça. Quand ils vous touchent les épaules, c'est pas dans le but de vous attaquer, c'est parce que c'est un peuple de toucheux d'épaules.
Ouais.
Puis quand ils vous expliquent quelque chose, ils aiment bien créer le contact humain avec vous autres. Souviens-toi, lorsqu'il y a eu une intervention assez musclée sur la Grande Allée, les policiers avaient eu de l'information comme quoi il y avait des membres d'un gang de rue criminalisé de Montréal en face du Dagobert, directement sur la terrasse du Dag, et il y avait des armes qui seraient possiblement dans les mains de ces individus-là. Ils sont arrivés très rapidement, puis rapidement, il y a eu un échauffouré, puis rapidement, il y a un policier qui a mis un jeune à terre, puis il a foutu de la neige d'en face. Et ça, ça avait été filmé par un cellulaire. Ouais. Et il y a un avocat de Montréal qui avait dit que le service de police de la ville de Québec, puis Québec, c'était une ville de racistes, jusqu'à temps qu'on découvre que ce petit Chris-là qui a reçu de la neige d'en face n'était pas un exemple pour la société. Là.
Exact.
Puis après ça, ben, tout d'un coup, cet avocat-là a disparu du décor, là. Mais bon Dieu qu'on était fâchés après lui. Parce que le service de police de la ville de Québec, c'est pas des racistes, c'est pas des xénophobes. Est-ce que des fois, ils peuvent avoir des billets? Comme tu l'as dit en début d'ouverture, tout le monde peut avoir un billet.
Puis c'est dur, je veux dire, c'est dur. Moi, je trouve ça dur à porter, tu sais, de faire dire que t'es raciste dans ta ville, que t'es raciste dans ta province, que t'es raciste dans ton pays. Je trouve ça insultant. Mais en même temps, je veux comprendre, de par les explications, pourquoi quelqu'un me dit ça. Est-ce que tu le fais parce que tu veux être malhonnête dans une argumentation ou que ça part-tu d'un sentiment que tu files vraiment dans les rues de ta ville? Si oui, ben regarde, on va s'asseoir, on va se coller un pichet puis on va se parler.
T'sais. Parce que le gars qui est de l'Observatoire des profilages, qui a rempli ce rapport-là, lui dit les gens habillés en style hip-hop, où les Noirs dans des véhicules de luxe se font très souvent interpeller par le service de la ville de Québec. Quand je te dis que tout le monde a des billets, là, tu te souviens-tu des Honda Civic dans le temps?
Ben oui.
Tu te souviens-tu du gars avec sa calotte par en arrière dans
ben
son
oui.
char?
On avait un billet.
Il s'appelait Kevin.
Tu te souviens-tu?
Bon, souvent. 80% des cas.
Tu te souviens-tu du gars qui avait un char sport rouge?
Uh-huh.
Ben, tous ces gars-là avaient, se disaient, ben, les policiers ont des billets à notre égard. Là.
Ben oui, les yo, les poêles, on peut faire le tour. Là.
Tu veux-tu entendre ce que Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec, avait à répondre, justement, à Maxime Fortin, le politologue oui. et auteur du rapport de recherche, qui mentionne qu'il y a plusieurs policiers de Québec qui font du profilage racial. Je te fais entendre ça à l'instant.
Ben, moi, je dirais, le sens des responsabilités, là, il voit où de l'autre côté, lui, à ce moment-là? Moi, j'aimerais ça voir ce que j'ai vu en ce moment dans la région de Montréal qui commence à se faire, des papas et des mamans qui sortent dans la rue et qui sont prêts au nom de se faire bâcher un peu par la communauté, de dire « c'est à moi de savoir ce qui se passe dans ma maison, c'est à moi de demander l'aide à la police quand il y a de quoi, puis c'est à moi de ne pas tolérer un arme à feu ou à tolérer des stupéfiants ou tolérer des armes dans ma cour. » Puis ça, j'aimerais ça que ça recommence. Et en ce moment, je pense que la barrière est en train de sauter un petit peu, du moins dans des communautés plus petites, ici comme on est à Québec. Parce qu'on est capable de retourner parler à nos gens, puis on arrête de rester chacun encloisonné dans notre tour d'ivoire. S'il y a le courage, M. Fortin, qui vienne donc voir les policiers à la Ville de Québec, et qui a donc faire un chiffre de patrouille avec eux, qui s'assoit à sa banquette arrière avec un sergent ou un lieutenant, qui vienne faire un chiffre d'observation. Puis je vous le dis, là, d'après moi, il n'y a qu'un chiffre. Ça sera peut-être compliqué. Au début, les policiers sont peut-être pas contents de l'avoir parce qu'ils sentent qu'ils ne parlent pas toujours très positivement du travail des policiers de Québec, mais qu'ils viennent donc s'asseoir avec eux. D'après moi, ça changerait la donne pas mal. Ils se rendraient compte assez vite que l'agresseur n'est peut-être pas dans la cour de celui qui le pense.
Roger Fer. C'est ce que j'entends de la part des boys à Montréal et Québec.
Mais ils devraient le faire.
Dès qu'il y a une intervention. Ben oui, ils devraient le faire. Puis je vais y en jaser. Il va être avec nous autres tantôt, okay. Entre 9 et 10. Maxime Fortin, qui est politologue. Mais c'est ce qu'ils disent. T'sais, systématiquement, quand on intervient avec des jeunes, puis ils disent que souvent avec les plus vieux, il n'y en a pas de problème. Mais un jeune de 20 ans, là, si le jeune de 20 ans ne fait pas sa rouge, s'il n'arrête pas à rouge, il brûle. S'il est sa jaune puis il décide de mettre le gaz au fond, ou il vire alors qu'il n'a pas le droit sur l'île de Montréal à certains endroits, ou la plupart des endroits, ben, systématiquement, ils se font dire « C'est quoi, tu m'arrêtes parce que je suis noir? » Parce qu'ils savent que ça a un impact dans la tête du policier.
Oui, oui.
Ça fait peur aux policiers.
Puis, je pense que c'est dans la responsabilité du policier de ne pas avoir de biais cognitifs. Mm-hmm. Des biais cognitifs, on en a tous. Si je vous demande c'est quoi les shows les plus problématiques au festival d'été, vous pensez à quoi?
Les shows de hip-hop.
Les shows de hip-hop, peut-être. Les shows de métal, peut-être. Si vous demandez à Martin Sirois et aux agences de sécurité c'est quoi les shows les plus problématiques, ils vont vous dire c'est Vigneault et Aznavo.
Ah oui?
Absolument.
Ça se tape sa gueule.
C'est pas que ça se tape sa gueule, c'est que le monde veut rentrer leur chaise, c'est que t'as des gens qui ont des problèmes physiques oui. Et t'as des gens qui veulent rien savoir de comprendre que tu peux pas t'installer avec ta nappe de pique-nique dans le milieu des plaines. Ça, c'est en 85, puis on peut plus faire ça, monsieur.
Charles Aznavour, puis qui?
Vigneault.
Vigneault.
T'as-tu dit Safia Nolin?
Mon pays.
Mais souvent, c'est les shows où t'as les personnes les plus âgées qui sont les plus dures à gérer pour les agences de sécurité. Alors que le biais cognitif qu'on a, c'est pas ça. Tu sais, cet été, j'avais participé à un reportage de Radio-Canada pour Slayer.
Brag.
Puis tu sais, Slayer, absolument. Slayer, les gens voient le monde se garrocher les uns par-dessus les autres puis ils se disent « Hey, les shows de métal, ça n'a pas de maudit bon sens. » Alors que quand tu vas d'un show de métal, c'est des papas puis des mamans puis des hommes d'affaires qui ont écouté Metallica quand ils avaient 13-14 ans. Puis à cette heure, ils amènent le flow dans le pack.
Pareil pour les shows punk à cette heure. C'est le même principe. Sur du monde de 40 ans qui sont exact. Là, puis ils sont plus assez en forme pour aller faire le mosh pit.
On va tester un autre biais cognitif avec vous autres. L'âge moyen de la personne qui joue aux jeux vidéo, c'est quoi?
35.
Non.
Ah, moi j'aurais dit 25.
Non plus.
20.
41. L'âge moyen du gamer en 2025 est de 41 ans. Vous le voyez-tu, votre biais cognitif?
Ben
là?
Oui.
Si je vous dis fermez les yeux.
De 6 ans.
Non, mais fermez les yeux. C'est quoi un gamer? Vous voyez le flow, là, avec c'est ses 8 Red Bull à côté, un arrière
puis
de l'autre.
Sa calotte à l'envers.
Dans le sous-sol chez sa maman.
Ses culottes trop grandes.
Avec sa mère qui crie « Viens manger! »
Mais c'est le gars de 41 ans.
Ben oui, c'est ça. Ouais. Donc, les biais cognitifs, ils existent.
En effet.
Fait partie de la vie, puis c'est normal. Mais en même temps, le policier, la policière, dans sa formation, idéalement, puis on reste des humains, mais idéalement, c'est de dire des biais cognitifs, ça n'existe plus. Mm-hmm. Ça ne doit plus exister. Pas facile.
En même temps, si on avait été une société opprimée, on aurait sûrement ce réflexe-là aussi d'autodéfense. Ça, je veux dire,
le Québec est une société opprimée.
George Floyd, c'est pas arrivé à une personne blanche.
Il y a des gens qui ont utilisé des expressions horribles pour nous victimiser au même titre que d'autres personnes en Amérique.
Oui.
Je me souviens d'une expression en particulier, là.
Fucking frog.
Nous étions les blancs d'Amérique. Il y a des gens qui utilisaient cette expression-là pour dire à quel point on était opprimés.
J'ai pas lu un livre là-dessus?
Oui.
Oui, c'est
oui.
Ça.
Puis,
non,
c'est pas Guillaume le Métis Vierge qui l'a écrit non plus. Mais tu sais, il faut pas. À un moment donné, il faut garder un certain équilibre, là, même si on veut faire des images et tout ça. Puis, il faut faire attention, nous autres aussi, à ce qu'on dit parce qu'on fait. Là.
Denis Gravel, un gros merci. On t'écoute à 14h.
Yes!
Max, sur la route, comment ça se passe?
C'était problématique un petit peu plus tôt, un peu partout, et ça l'est toujours. Tranquillement, pas vite, là, ça se règle, mais toujours pour passer de la Rive-Sud à la Rive-Nord, c'est compliqué au pont. La capitale, direction ouest, entre Beauroyal et Laurentienne-Stau-Rouge, puis après ça, il y a un petit ralentissement qui va reprendre dans le coin de Robert-Bourassa. Toujours tough sur Laurentienne-Sud vers rue de la Faune, et en R4-Sud, un petit ralentissement encore à hauteur de Chauveau, mais ça semble vouloir se régler vite.
Marceau le matin. Marceau le matin.